per questo che usavamente mi ha lasciato nella promessa, confesso a ragione di assetà per un paritume, se più spizzo, il genealogista di lo stello della Genesi, e chi nel nome, dando il nome, e chi la maniera della Santa Madre Giosa sono succedenti il vero fils en vivant un certain nombre d'années. Nous avons eu avec Gérald, Gérald avec lui 800 ans après la naissance de son fils Enoch, et il avait déjà 162 ans. Alors,
sur la longévité de ces personnages bibliques, il y a certainement des données qui nous échappent et qui expliquent pourquoi ils ont vécu aussi longtemps. Mais ce qui est important dans cette généalogie, et nous aurions pu la lire en entier, mais je crois que cette partie-là suffit, c'est que, alors qu'un certain nombre d'hommes ont vécu très longtemps, 900 et quelques années, l'un d'entre eux s'est différencié par le fait qu'il a vécu beaucoup moins longtemps. Et nous allons tout à l'heure nous pencher sur ce fait. Il a vécu beaucoup moins longtemps, mais il a vécu différemment. Il nous est dit que alors que tout le monde, tout le monde se succédait de père en fils. Un père avait un enfant, puis il vivait tant d'années après la naissance de son fils. Puis il mourait, puis le fils vivait tant d'années et il avait à nouveau un fils. Puis il vivait tant d'années, et ainsi de suite. C'est toute une série de vies qui s'écoulent comme cela devant nous, et cela fait penser à la plupart de nos contemporains qui vivent, qui se marient, quand ils se marient, qui ont des enfants, puis les enfants vivent, et les parents prennent leur retraite, puis après ils meurent, et ainsi de suite. La vie semble comme cela se répéter, comme une routine, comme une litanie. Et c'est l'impression que nous avons quand nous lisons tout le texte. Alors, il s'est trouvé qu'un jour, un homme s'est distingué. La Bible, au lieu de dire « Enoch a vécu tant d'années, 65 ans exactement, avant d'avoir son premier fils, Methuselah, puis il a vécu tant d'années, c'est-à-dire 300 ans, après avoir donné naissance à Methuselah. » Et bien sûr, dans la suite logique des choses, on aurait dû avoir Enoch mouru à l'âge de 365 ans. Puis, c'est son fils qui continua. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible, et on peut passer au verset 12, voilà. La Bible dit, après la naissance de Methuselah, au lieu de dire Enoch vécut tant d'années, c'est-à-dire 300 ans, il est dit Enoch marcha avec Dieu. Enoch a donné à sa vie une signification particulière. Le premier point que j'aimerais souligner cet après-midi, c'est que le fait que Enoch a marché avec Dieu a eu un début. Il n'est pas dit qu'Enoch marchait avec Dieu depuis son enfance, ou qu'Enoch marchait avec Dieu depuis sa jeunesse, ou qu'Enoch a marché avec Dieu à partir de son mariage. Il est dit, Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Donc, Enoch a commencé à marcher avec Dieu lorsqu'il a eu ce fils. On peut imaginer, mais ce n'est pas complètement sûr, que c'était son premier. La marche d'Enoch avec Dieu a connu un début. Elle ne s'est pas faite progressivement. On peut s'interroger longuement sur pourquoi Enoch a décidé, puisque toute marche avec Dieu est le fruit d'une décision. On ne naît pas avec le désir de marcher avec Dieu. On peut voir ce désir se faire grandir dans notre cœur si, par exemple, on est dans une famille chrétienne, de parents chrétiens qui connaissent l'Évangile et qui connaissent le Christ. Mais là, dans le cas d'Enoch, il n'est pas dit ça, il dit « Enoch, après la naissance de son fils Methuselah, a marché avec Dieu. » Ce qui laisse entendre, très logiquement, qu'avant, on ne pouvait pas dire cela d'Enoch. Avant, Enoch vivait comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est-à-dire, comme Jésus le dit en parlant d'une époque un peu plus tard, mais c'était vrai de l'époque de Noé, c'était vrai de l'époque de Lot. Jésus dit, en ce temps-là, les gens mangeaient, buvaient. Il n'est pas dit s'enivraient. Les gens mangeaient, buvaient, c'est-à-dire qu'ils vaquaient leurs occupations, ils se nourrissaient, ils achetaient, ils vendaient, ça c'est la vie de tous les jours, ils plantaient, ils bâtissaient. Dans un autre endroit, je crois dans l'évangile de Matthieu, Jésus rajoute ceci, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Et nous avons là, non pas une critique, mais une description de la vie de tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas d'autre espérance que celle qu'ils ont dans cette vie. Il n'est pas dit que les hommes vivaient dans le mal, mais simplement, et c'est là toute la différence, ils ne faisaient pas le mal, la Bible ne dénonce pas leur activité, parce que ce sont des activités que même les chrétiens engagés ont. Les chrétiens engagés, les chrétiens, les enfants de Dieu, mangent, boivent, ils achètent, ils vendent, ils plantent, ils bâtissent, enfin ils font bâtir, ils font construire, éventuellement, ils se marient et puis ils marient leurs enfants. Ce sont des activités légitimes. Mais ce que la Bible dit sur ces contemporains d'Enoch et ces hommes qui ont vécu avant et après lui, c'est que si ces hommes ne vivaient pas dans le mal, ils ne faisaient rien de remarquable. Il se contentait de vivre la vie de tous les jours. Enoch a pris une décision. Il a cherché à aller plus loin. Il s'est posé des questions. Et il a découvert que dans la vie de tous les jours, le plus qui fait toute la différence, c'est de rencontrer Dieu et de marcher avec Dieu. Alors, marcher avec Dieu, c'est une expression. Bien sûr, c'est une expression qui veut dire simplement vivre en s'appuyant sur la Bible, sur la parole de Dieu, en écoutant les paroles de Dieu, en écoutant l'enseignement de Jésus et en se l'appropriant, en faisant une partie fondamentale de sa vie. Je remarque, deuxième point, que c'est au sein de responsabilités familiales qu'Enoch a commencé à marcher avec Dieu. On entend parfois dire que lorsque on est seul, c'est plus facile de marcher avec Dieu. Parce que, excusez-moi l'expression, on n'a de compte à rendre à personne. On vit seul, on s'occupe de soi. Et alors, d'autres disent, bien sûr, parce que lorsqu'on fonde une famille, lorsqu'on a un mari ou une femme, puis des enfants, alors ça se complique. Alors, bien sûr, je ne veux pas décourager ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est peut-être le cas de la plupart d'entre vous, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai, c'est pas une révélation, c'est vrai que se marier et avoir des enfants, ça peut paraître plus compliqué à gérer que quand on est tout seul. Parce que quand on est tout seul, par principe, on n'a qu'à se gérer tout seul. En principe, c'est peut-être plus compliqué que cela. Mais je remarque une chose ici, c'est que Enoch, ce n'est pas quand il était seul qu'il a décidé de marcher avec Dieu. C'est pas quand la vie pouvait paraître éventuellement, parce qu'elle n'est pas toujours facile pour les célibataires, mais c'est peut-être, ce n'est pas quand il était seul, quand il était célibataire, quand il avait moins de soucis peut-être ou de préoccupations, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a décidé de marcher avec Dieu, c'est après. Non pas non plus, comme je disais tout à l'heure, quand il s'est marié, c'est après. C'est quand il a eu son enfant. Alors, et imaginons un instant, que ce soit que cet été son premier enfant, Methuselah. Et pourquoi est venu à l'idée d'Enoch de marcher avec Dieu? Alors on peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors ce que je dis là maintenant n'est pas écrit dans la Bible. On peut l'imaginer. On peut imaginer par exemple qu'Enoch a connu un moment difficile ou que son épouse a connu un moment difficile lors de l'accouchement qui a donné naissance à son fils, Methuselah. Et peut-être que Enoch a dû crier à Dieu pour qu'il intervienne, pour sauver la mère ou l'enfant ou les deux. On peut imaginer cela. On peut imaginer plein d'autres choses. Toujours est-il que, ou peut-être qu'Enoch a pris conscience des nouvelles responsabilités. C'est vrai que quand on vit tout seul, on a des responsabilités. Bien sûr, on en a toujours dans la vie des responsabilités, mais on en a un petit peu moins. Quand on se marie, on a un peu plus de responsabilité, parce qu'on a aussi la responsabilité de la personne avec laquelle on se marie. Et puis quand arrive le premier enfant, on se sent encore plus responsable, parce qu'on est responsable maintenant en plus de l'enfant qui vient de naître, et qu'il va falloir élevés, éduqués. Peut-être que c'est pour cela. Peut-être qu'Enoch s'est senti un peu submergé par le poids de la nouvelle responsabilité et qu'il s'est dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et alors, il s'est tourné vers Dieu. Toujours dire que tout cela, ce sont bien sûr des suppositions. Mais il y a bien dû y avoir quelque chose qui est arrivé pour qu'Enoch ait envie de se tourner vers Dieu et qu'il sente le besoin de marcher avec Dieu. Il arrive parfois que dans des événements difficiles de la vie, on prenne de telles décisions. Il arrive parfois quand on tremble un peu plus que les autres jours, ou quand on a peur de ce qui va arriver, qu'on décide de s'engager avec Dieu d'une manière particulière, qu'on dit « Seigneur, maintenant, je te donne tout. Fais de moi ce que tu veux. Viens à mon secours, je te serai fidèle. » Je me souviens d'une femme qui, un jour à la fin d'un culte, nous avait dit, au pasteur et à moi-même, le pasteur avec lequel je travaillais, elle m'a dit « Maintenant, j'ai compris qu'il faut que je me donne davantage au Seigneur. » Alors, dans sa décision de se donner davantage au Seigneur, elle avait décidé que maintenant, ce qu'elle ne faisait pas avant, elle viendrait à la réunion de prière du mardi soir. Alors, on s'est réjoui de sa décision. C'est toujours une bonne décision. Elle a décidé de venir à cette réunion et elle est venue pendant 2 mardis de suite. Puis, on ne l'a plus revue. Elle avait pris conscience de quelque chose. Et vous savez, il faut toujours faire attention aux décisions, aux engagements qu'on veut prendre envers Dieu. Parfois, on prend des engagements très vite, sous le coup de l'émotion, peut-être sous le coup d'une prédication qui nous a marqué plus qu'une autre, ou sous le coup d'un événement comme Enoch qui a dû bouleverser notre vie. Mais ce qui compte, ce n'est pas de prendre des engagements, ce qui compte, c'est de les tenir. Enoch a pris un engagement lors ou à l'époque de la naissance de son fils. Encore une fois, nous ne savons pas exactement pourquoi, mais peu importe, la Bible dit, à partir de ce moment-là, Enoch a marché avec Dieu. Ce qui veut dire, à partir de ce moment-là, Enoch ne s'est pas contenté de vivre, mais il a voulu donner à sa vie une qualité supérieure. Il a compris que la vie était une chose sérieuse. Ou comme on le dit dans un autre texte de la Bible et dans une autre traduction, il a pris, c'est je crois au sujet de Noé que le texte d'Hébreu, qui suit celui que nous avons lu tout à l'heure, dit que Noé, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, encore une fois, on ne sait pas comment Dieu lui a parlé, mais quand Dieu lui a annoncé qu'il allait envoyer le déluge et qu'il devait construire un grand bateau pour échapper à la mort, il est dit que dans certaines traductions, il est dit que Noé a pris la parole de Dieu, ou il a pris Dieu au sérieux. Et je crois que c'est aussi ce qu'a fait Enoch. Dans l'événement qui a amené sa décision, qui a entraîné sa décision, Enoch a pris une décision majeure. Il a décidé que dorénavant, il vivrait en tenant compte de Dieu. Jusqu'à présent, ça n'avait pas été le cas. Mais il a dit, maintenant, je vais faire entrer Dieu dans ma base de données. Mais bien plus que cela, je vais compter sur Dieu chaque jour de mon existence. La preuve, c'est que la parole de Dieu ne dit pas cela souvent. Je crois que dans toute la Bible, il n'y a que 2 hommes dont la Bible dit qu'ils ont marché avec Dieu. C'est Enoch et c'est Noé. Enoch et Noé. Il est dit que à l'époque de Noé, les hommes étaient pervertis, que deux mots, la corruption et la violence, caractérisaient l'époque et caractérisaient les contemporains de Noé. Mais il est dit que dans sa génération, Noé marchait avec Dieu. Ce sont les 2 seuls hommes dont il nous est dit dans la Bible qu'ils ont marché avec Dieu. Alors, 3e point, on peut dire que la marche avec Dieu, que l'expression « marcher avec Dieu » nous parle d'une certaine communion, d'une certaine intimité avec Dieu. Est-ce qu'on marche sur le long terme? Parce qu'ici, il s'agit du long terme. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, pendant donc la grande majorité de sa vie. Noé a marché avec Dieu pendant des centaines d'années, d'après la Genèse. Donc c'est une longue période, c'est une majeure partie de la vie. Est-ce qu'on marche avec quelqu'un, dit la parole de Dieu, je crois que c'est le prophète Amos qui dit cela, est-ce que deux hommes marchent ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord avant? Est-ce qu'il vous est arrivé de marcher pendant des heures avec votre pire ennemi? Il faut encore le savoir qui c'est, il faut encore avoir des ennemis. Mais est-ce qu'il viendrait naturellement à un homme d'aller se promener dans la campagne avec son ennemi? C'est rare que deux ennemis marchent ensemble. En général, ils s'évitent. Eh bien, c'est pour cela que la Bible emploie cette expression, parce que marcher avec Dieu, cela sous-entend que l'on s'est mis d'accord avec Dieu. L'intimité avec Dieu, elle a été connue par des hommes de la Bible. Je pense à trois hommes en particulier. Abraham, dont il n'est pas dit qu'il a marché avec Dieu, mais il est dit qu'Abraham était appelé l'ami de Dieu, ce qui est assez synonyme. Il nous est dit aussi que Moïse parlait avec Dieu face à face. Cela aussi nous parle d'intimité. Quant à David, il nous est dit premièrement que dans toutes les occasions où il avait des décisions importantes à prendre, il consultait Dieu. Il se rendait auprès de Dieu et lui demandait son avis et son conseil. Et un peu plus tard ou un peu avant, David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Cela nous parle d'intimité. Il y a un quatrième point qui est que, c'est un point important, c'est que la marche d'Enoch avec Dieu s'est déroulée dans un monde qui apparemment ne connaissait pas Dieu ou ne tenait pas compte de lui. Rien dans la généalogie de Genèse 5 nous laisse entendre que les hommes autres que Enoch et même son fils Methuselah, rien ne nous laisse entendre dans le texte de la Genèse que ces hommes-là tenaient compte de la présence de Dieu ou de même de l'existence de Dieu, puisque aucune référence ne figure là dans le texte. Si l'un d'entre eux s'était fait remarquer, même un peu moins qu'Enoch, par sa proximité de Dieu, par son désir de s'intéresser à Dieu, je pense que cela serait écrit. Mais il nous est dit simplement qu'Enoch a cherché à s'approcher de Dieu. Ce qui est remarquable, c'est que le monde d'Enoch, contrairement au monde de Noé, quand je parle du monde d'Enoch, je veux parler des gens qui vivaient à l'époque d'Enoch, la société du temps d'Enoch n'était pas, comme celle du temps de Noé, une société perverse et violente. Il n'est pas dit des contemporains d'Enoch, enfin quand je dis les contemporains, je veux dire ceux qui vivaient avant et après lui, à son époque prise dans le sens le plus large du terme à cause des âges de ces personnages, il n'est pas dit que ces gens-là ne pensaient qu'à faire le mal, comme cela est dit de la génération, des générations qui vivaient au temps de Noé. Il n'est pas dit qu'ils étaient pervers, il n'est pas dit qu'ils étaient violents, il n'est pas dit qu'ils étaient corrompus. Et voilà, là il y a une idée extraordinaire, c'est que, il y a une pensée incroyable ici, enfin extraordinaire, c'est que le monde d'Enoch, la société du temps d'Enoch, n'était pas une société mauvaise. Ce n'était pas apparemment une société violente. Ce n'était pas une société corrompue. Ce n'était pas une société dont les membres ne pensaient que tous les jours ne pensaient qu'au mal et à faire le mal, comme il est dit du temps de Noé. Mais c'était quand même une société qui ne pensait pas à Dieu. C'est une société qui ne prenait pas en compte ce que Dieu est, ce qu'il veut, ce qu'il aime. Voyez-vous, on peut vivre dans le mal, on peut vivre dans la corruption, on peut vivre dans la violence, c'est une chose, et bien sûr, on ne fait rien pour que Dieu puisse avoir sa part, mais on peut aussi ne laisser aucune part à Dieu si on ne tient aucun compte de lui, sans pour autant être violent, corrompu ou pervers. On peut s'abstenir de faire du mal, mais ne pas pour autant paver la voie pour que Dieu se manifeste. Et c'est en cela que Enoch est un personnage intéressant. C'est en cela que ce qu'il a fait est très intéressant et très instructif pour nous, parce que dans ce monde indifférent à Dieu, lui s'est intéressé à Dieu. Lui a cherché à en connaître plus. Et même si nous ne savons pas comment il a recherché Dieu, nous savons qu'il l'a trouvé. Parce que la Bible dit bien que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous le trouverons. Le cinquième point, c'est que la marche, et c'est peut-être le plus surprenant, c'est que la marche de Noé, la marche d'Enoch avec Dieu ne lui a pas assuré la vie la plus longue. Quand on considère la généalogie de Genèse 5, on remarque une chose remarquable, c'est que la vie de l'homme le meilleur a été la plus courte. Les hommes qui l'ont précédé, qui l'ont suivi, ont vécu au moins 900 ans chacun. Et ils ne se sont pas fait remarquer d'une manière ou d'une autre. Lui, Enoch, qui s'est fait remarquer par son attachement à Dieu, n'a vécu que 365 ans. Alors vous allez me dire, 365 ans, c'est déjà pas mal. Bon, alors si vous voulez des chiffres qui parlent plus, divisez leur âge à tous par 10. Donc, il n'y a pas écrit Methuselah, quel âge il est mort. Je crois que celui d'avant, Yéred, c'était 900... Alors attendez que je calcule bien. 962 ans. Alors divisé par 10, ça fait 96 ans, un peu plus de 96 ans. Enoch, en comparaison, aurait vécu 36 ans et demi. Ce qui montre bien la différence. La vie la plus courte a été la plus belle. Je dis cela parce que, à notre époque, comme à bien des époques, l'homme a toujours cherché à vivre le plus longtemps possible. Comme si cela allait être une meilleure chose. Mais Dieu, dans sa parole, nous montre bien, parce que d'autres personnages bibliques connus ont vécu moins longtemps que les autres et ont été les meilleurs. Alors, cela, bien sûr, ne veut pas dire non plus que la vie la plus courte est toujours la meilleure. Ce n'est pas automatique. Mais l'idée de la parole de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que une vie longue n'est pas un bien en soi, sauf si elle est vécue avec Dieu. Une vie, quelle que soit sa durée, est belle et importante si on en profite pendant ces jours-là pour marcher avec Dieu. Ce n'est pas la longueur d'une vie qui compte, c'est sa qualité. Et puis si Dieu vous donne une longue vie et que vous pouvez la vivre avec lui, ce sera encore mieux. C'est vrai que une vie de 90 ans, par exemple, vécue avec Dieu, c'est mieux qu'une vie de 90 ans vécue sans Dieu. Et c'est même mieux qu'une vie de 30 ans vécue sans Dieu. Mais l'important, c'est de vivre avec Dieu. Je termine. La marche d'Enoch avec Dieu s'est bien sûr bien terminée. La Bible dit qu'Enoch, qui est l'un des deux personnages bibliques à avoir vécu cela, Enoch n'est pas mort. Enoch a été enlevé par Dieu. Et je crois que c'est logique parce que, vous le savez, Dieu ne prend pas les choses par la force. Dieu prend ce qui lui appartient. La Bible dit qu'un jour, Jésus reviendra et prendra avec lui tous ceux qui auront cru en lui. Aussi bien les morts qui seront morts dans la foi en Dieu que les vivants qui seront encore restés sur terre. Dieu ne prendra alors encore une fois, Jésus en l'occurrence, ne prendra encore une fois que ceux qui lui appartiennent. Et là, nous voyons que Enoch a tellement bien marché avec Dieu que Dieu a fini par le prendre. Pourquoi ? Dieu a pris celui qui lui appartenait. Excusez-moi l'expression, Dieu ne vole pas. Dieu ne prend pas de force ce qui ne lui appartient pas. Et Dieu ne prendra pas ceux qui ne lui appartiennent pas. Nous lisons ici que la marche d'Enoch a pris fin. Les gens de son époque ont dû se demander où il était passé. Dieu l'avait repris et il a disparu. En conclusion, je dirais ceci, c'est que le secret de la marche d'Enoch avec Dieu, ça a été sa foi. On ne peut pas connaître Dieu sans croire qu'il existe. Il y a même un texte, je crois, dans l'Épître aux Hébreux, qui dit que celui qui veut croire en Dieu doit d'abord croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui croient en lui. Nous devons d'abord croire à son existence et ensuite croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et pour récompenser ceux qui le cherchent, Dieu fait tout simplement cette chose, il se laisse trouver. C'est la foi. D'ailleurs, c'est ce que dit le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il prend Enoch, parmi d'autres, comme un héros de la foi, comme un homme qui a basé sa vie sur la foi en Dieu. Dieu nous demande de nous approcher de lui, et la vraie foi, c'est celle qui nous fait marcher avec Dieu, c'est-à-dire vivre en nous occupant d'abord des choses de son royaume, selon Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Celui qui cherche à s'approcher de Dieu tous les jours, celui qui cherche comme Enoch à marcher avec Dieu, c'est-à-dire à avancer dans la vie en s'appuyant sur Dieu, en comptant sur lui, en s'attachant aux choses que Dieu aime et en rejetant celles que Dieu n'aime pas, celui-là prouve sa foi et il se prépare à un avenir glorieux, puisque la Bible dit que Dieu le prendra lui aussi, comme il a pris Enoch avant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.